BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h30 pile, vous êtes sur BFM Business et on est en direct pour une heure de débat et de controverse, les experts, avec une question ce matin. Est-ce qu'on n'aurait pas noirci le tableau ces dernières semaines? Bah oui, l'INSEE nous délivre quelques bonnes nouvelles ce matin sur l'inflation et sur la consommation. La consommation qui remonte au mois de mai, l'inflation qui baisse au mois de juin et Matignon qui affirme de son côté que toute la chaîne a tenu face à la canicule qui nous a écrasé de chaleur la semaine dernière. Alors, faut-il regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? On va voir ça avec mes invités ce matin et on va passer en revue notamment les propositions des candidats à la présidentielle qui rivalisent déjà deux propositions face aux bouffées de chaleur du pays. Congé climatique, climatisation généralisée, plan fraîcheur ou encore rénovation thermique. Quelles mesures sont réellement efficaces? Qui doit décider? Et puis surtout, qui va payer? Nous regarderons ensuite vers la Corée du Sud qui annonce un plan colossal de 1000 milliards pour l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les data centers. Et pendant ce temps, l'Europe peut-elle encore rester dans la course? Ce sera le troisième thème des débats. Autre déséquilibre spectaculaire, plus d'un milliard d'euros de déficit commercial entre l'Europe et la Chine. C'est désormais le chiffre par jour. Oui, tenez-vous bien. Le dialogue peut-il encore suffire? Ou faut-il enfin muscler notre défense commerciale? Hier, le ministre du Commerce chinois était à Bruxelles face au commissaire européen Sefcovic. Et puis enfin, on reviendra sur l'or qui signe son pire mois depuis 2008. Et le Bitcoin qui lui aussi a perdu la moitié de la valeur depuis son sommet au mois d'octobre dernier. Pourquoi les actifs refuges ne rassurent-ils plus? Ce sera le dernier thème des experts aujourd'hui. Voilà, il est 9h passé de 32 minutes. Vous êtes sur BFM Business et vous y êtes bien. Allez, c'est parti. Bonjour Christian Poyot.
Bonjour Raphaël Legendre.
On va parler de tout ça ensemble. Christian, cofondateur et CEO de Micropole Group. Talent. Bonjour Ludovic de Sauté, directeur délégué de la rédaction de la Tribune. On attend Céline Antonin, économiste à l'OFCE, qui va arriver d'une minute à l'autre. Mais Ludovic, je voulais commencer avec vous simplement. Bon, pour vous faire part, les chiffres sont tout chauds, viennent de tomber de l'INSEE, chiffres de la conso et de l'inflation qui sont plutôt pas mal.
Ouais,
de bonnes nouvelles, vous voulez qu'on les évoque pour commencer très rapidement.
Non, et c'est malheureusement comme ces derniers mois on a plutôt commenté des chiffres où ça s'emballait.
Ah oui.
Là la bonne nouvelle c'est que l'inflation déjà marque le pas puisque l'inflation ressort sur le mois de mai à 1,8% contre on a été 2,4% le mois précédent.
Oui.
Donc là très clairement on est corrélé sur la variation des prix de l'énergie hein, c'est ni plus ni moins suite à l'accord du 17 juin entre les États-Unis et l'Iran, les prix ont commencé, l'énergie ont commencé à baisser. Donc là, c'est vraiment la différence énergétique. L'autre bonne nouvelle, c'est que la conso résiste, et ça, c'est aussi une bonne nouvelle, puisqu'elle elle ressort à plus 0,5%. Alors, la curiosité, quand elle ressort plus 0,5%, c'est qu'elle ressort à la hausse, liée quand même à la hausse des prix d'énergie. C'est-à-dire que les gens ont plus payé d'énergie au
moins. Oui, c'est ça, c'est la conso d'énergie.
Ouais, c'est pas la conso courante, on va dire.
Ouais, c'est ça. On n'est pas parti dépenser dans les restaurants de partout évidemment, mais c'est quoi? C'est la clim? C'est la première canicule
cinémas,
en fait
qui nous les glaces
ouais. Les îlots de fraîcheur qui ont peut-être fait du bien. Non mais tout ça pour dire simplement, Christian, on a un peu, je veux dire, nous les premiers dramatisé quand même la situation ces derniers mois et puis on se rend compte que finalement ça tourne à un rythme assez moyen.
Je pense qu'on va pouvoir le dire un peu sur tous les thèmes que vous avez proposés, Raphaël. C'est-à-dire que, alors moi, par nature, je vois toujours le verre à moitié plein. Je ne sais pas si c'est une bonne.
C'est la nature, c'est une bonne nouvelle.
On ne se refait pas. Oui, je pense qu'on est, on a quand même toujours ce biais un peu catastrophiste, quoi, si je veux dire. Alors, la situation qu'on a vécue a été très dure pour beaucoup de gens. Enfin, il ne s'agit pas de nier la réalité des faits, mais encore une fois, si on essayait de revenir à des choses de bon sens, de voir les choses avec pragmatisme, lucidité et sans exagération. Et alors, je pense qu'ici sur BFM Business, justement, on analyse les choses. Mais enfin,
c'est tout ce qu'on aime.
Sans vouloir jeter la pierre à vos camarades, dans les médias, on a une surinflation pour le coup de nouvelles catastrophistes.
Bah, oui.
La France étouffe. On a l'impression que tout le monde est mort. Bon, ok. moi, je suis au quotidien dans les entreprises. La France a tourné, ça a été plus compliqué. Mais
à la France des entreprises, oui. Oui. C'était plus compliqué dans les services publics. Hein,
Oui, on va voir. Ok, mais voilà. Donc, encore une fois, sachant raison garder, j'insiste bien pour qu'on ne traite pas de négationnisme de sujet climatique, évidemment. Mais regardons, on s'est adapté. Et puis, je pense peut-être le sujet suivant. Arrêtons tout de suite de se tourner vers l'État. Que fait l'État ? L'État doit régler le sujet et compagnie. C'est vraiment un tropisme français qui est insupportable.
Oui, c'était l'appel de mon édito ce matin. Prenez-vous par la main, responsabilité individuelle, plutôt que diluer dans le collectivisme et penser que Matignon a la réponse absolument à tous nos problèmes. Allez, des solutions à nos problèmes, il y en a plein justement du côté des candidats à la présidentielle, clim généralisé, congé climatique, plan fraîcheur, c'est un papier sympa des Échos ce matin. On peut commencer par la clim d'abord, qui a été le grand sujet, Ludovic, de la semaine dernière. Est-ce qu'il faut généraliser la clim de partout ?
Généraliser, peut-être pas, mais en tout cas...
c'est le plan du Rassemblement National, un grand plan climatisation. On ne sait pas trop encore comment il le finance.
Il y a eu le papier que vous évoquez des Échos, et il y a quand même eu un peu un concours Lépine la semaine dernière, on va pas se mentir, sur chacun y va de sa proposition. Ceci dit, sur la climatisation, juste pour remettre et prendre de la hauteur et pas se mettre juste dans un axe politique, il est anormal dans une économie française de se poser la question sur des lieux comme les EHPAD, les hôpitaux et par extension les écoles. Se dire qu'aujourd'hui, dans une économie moderne d'un pays quand même qui reste en pointe mondialement, on découvre le problème. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup on s'apercevait que la France n'avait pas de chauffage l'hiver. Donc c'est je vais faire le parallèle à l'envers. Donc il y a vraiment là il y a un manque d'anticipation et c'est un manque d'anticipation. C'est-à-dire je pense qu'il faut un peu dépolitiser l'approche. C'est-à-dire que aujourd'hui la question elle est plus tellement de savoir si honnêtement c'est climatisation contre écologie, c'est davantage immobilisme contre anticipation. C'est-à-dire que c'est ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut se mettre en marche. Il y a des économies européennes, méditerranéennes, qui savent parfaitement gérer des périodes de chaleur sans se mettre à l'arrêt et sans avoir la moitié des trains qui ne circulent pas.
Le principal sujet qu'il faut éviter, c'est de dire soit l'un, soit l'autre. Ça, évidemment, c'est une aberration.
C'est vrai qu'on a vu cette opposition un peu superficielle entre lutte contre le réchauffement climatique et adaptation, comme si l'un pesait sur l'autre et qu'on n'était pas capable de faire les deux.
Encore une fois, si on raisonne tout à fait simplement, bien sûr qu'il faut faire les deux. Voilà. Bon. Après, manque d'anticipation. Je me rappelle, ça doit faire 15 ans, il y avait eu des chutes de neige monstrueuses à Marseille. D'accord ? Évidemment, tout le monde avait râlé, ça n'avait pas été anticipé, etc. Et le maire de l'époque, Gaudin, qui n'était pas parfait sur tout, avait répondu, écoutez, ça arrive une fois tous les 15 ans, donc on ne va pas acheter un chasse-neige pour que ça serve une fois tous les 15 ans. Bon. Là, le parallèle est certainement pas le bon, parce qu'on se doute bien, malheureusement, que les crises climatiques vont augmenter. Mais ça ne fait pas non plus des années que ça augmente comme ça. Enfin, on se souvient de 2003, notamment, il y a eu
15 000 morts.
Voilà, bon. Oui, mais ça fait 20 ans, ça fait 23 ans. Oui. Bon. Là, malheureusement, ça va se produire beaucoup plus souvent. Donc oui, faut se dire, ça va venir, quoi, si j'ose dire. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pourquoi jeter l'anathème systématiquement à tel ou tel gouvernement ou quoi que ce soit ? Encore une fois, oui, on est face à une situation qui évolue plus rapidement peut-être qu'on ne pouvait l'anticiper. Il va falloir continuer à lutter contre le réchauffement climatique. Redisons au passage que même si la France, demain, avait zéro émission carbone, c'est pas ça qui réglerait le problème. Ceux qui émettent, c'est la Chine, les États-Unis et compagnie. Donc oui, il faut continuer, mais les barrières climatiques s'arrêtent pas aux frontières, autant que je sache. Et même nos amis allemands utilisent le charbon de manière importante. Donc,
Été plutôt vertueux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour le coup, on a mis pas mal de choses en place et on est l'une des rares régions du monde à avoir baissé nos émissions carbone.
Exactement. Non, après, je rejoins exactement ce qui a été dit. C'est-à-dire, oui, bien sûr, les hôpitaux, les hôpitaux et les EHPAD, c'est quand même complètement hallucinant. Je crois qu'à Nantes, il y a un projet d'hôpital dans lequel on dit, finalement, la clim ne sert à rien. Alors là, pour le coup...
Ça a été l'hôpital de Saint-Lô qui a été construit comme ça en disant qu'il n'y a pas de canicule, effectivement, en Normandie.
Alors là, pour le coup, la gare de Nantes, dont on a beaucoup parlé. Accessoirement aussi un chef d'entreprise, imaginez ce qui se passe à 3-5 ans et pour un politique à 10 ou 20 ans.
Et oui.
Donc ne pas mettre ça sur la table, là pour le coup c'est une erreur.
On a les moyens de financer le plan. Alors Gabriel Attal parle par exemple d'un droit à la climatisation. Est-ce qu'on a les moyens de mettre en place aujourd'hui?
La facture est colossale. Hein. Alors, pour l'instant, c'est des évaluations, mais on est de l'ordre, et d'ailleurs, ça pèse énormément sur les collectivités, surtout cette facture, on est de l'ordre de 19 à 20 milliards par an, si on voulait s'y mettre sérieusement. Moi, ce qui m'inquiète dans la séquence actuelle, évidemment, on a croisé une canicule, on va peut-être en recroiser d'autres cet été, c'est que tout ça est un peu géré dans l'urgence. Allez, hop, on va acheter des centaines de milliers de climatiseurs chinois, oui. Et on va les mettre... comme on peut dans, dans des écoles, dans des crèches, et puis ils vont finir dans la poussière 11 mois sur 12. En fait, non, mais ça, c'est clairement, on va sur cette tendance-là. Alors que là, c'est un effort structurel qu'il faut mener. C'est-à-dire que c'est un effort, ben, d'abord, ça concerne le bâti. Le bâti, c'est pas quelque chose qu'il faut faire évoluer. Il faut bien comprendre que, à la limite, la France croise sa propre trajectoire. C'est-à-dire qu'on a un bâti ancien, je pense aux écoles, aux hôpitaux, qui ont même été conçus, imaginés à une période où on recherchait la lumière. On avait une hygiène qui était totalement différente. C'est-à-dire comment ces lieux étaient habitables dans un climat un peu tempéré, froid et autres. Ben oui. Il va falloir repenser tout ça. C'est un effort.
Donc c'est la rénovation des bâtiments. Il y a le fonds vert pour ça. Hein, près d'un milliard, 850 millions.
Et après, alors là, Christian va me trouver défaitiste et tout ça, mais c'est sur toutes ces questions, ben, toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui, que ça soit l'intelligence artificielle, que ça soit l'adaptation et tout ça, c'est, ça tombe à un moment où, malheureusement, la France, dans ses marges de manœuvre...
Elle a cramé la caisse.
Voilà. C'est-à-dire que, là où il faudrait de la vision, du temps, de l'investissement, et vraiment, là, des logiques de plans décennaux avec des gens qui sont à la manœuvre. L'effort qu'on arrive à faire sur la défense, il faudrait le faire dans d'autres domaines, en fait. Mais alors là, on croise, j'allais dire, l'état de nos finances publiques. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui la capacité A. Maintenant, ce que je ressens, enfin, Christian le confirmera, c'est que je pense que cette canicule a un mérite, entre guillemets, hein, c'est malheureusement, au plan sanitaire, elle n'a absolument aucun mérite, mais c'est même tout l'inverse. Ouais. C'est que je pense qu'elle a créé, comme les canicules s'enfermaient jusqu'à maintenant, plutôt dans les périodes estivales, c'est-à-dire du mois de juillet et d'août, sur lequel on a quand même des ralentissements économiques. Là, on a vécu deux canicules qui sont sur des périodes denses économiquement, c'est-à-dire à la fois le mois de mai et le mois de juin. Mmh. C'est plus la même donne. C'est-à-dire une canicule un 15 août, la France est déjà un peu ralentie.
Oui.
Là, c'est des périodes.
Ça va faire mal, c'est ça que.
Non, non, c'est-à-dire que là, c'est des périodes denses. Et puis en plus, c'est des périodes de fin de saison dans les entreprises, ça turbine et tout ça. Et je pense que quand même, tant du côté du patronat que des syndicats, il y a eu un électrochoc sur cette canicule qui a été. Cette double canicule qui ont été extrêmement prématurées. Mmh. C'est-à-dire, en fait, ça va être compliqué de bosser là-dessus. Et je rappelle juste.
Il va falloir s'adapter.
Je rappelle juste dans quel cadre on est, parce que c'est pour une ville comme Paris, sur une échelle de 9 à 10 ans, c'est une dizaine, douzaine d'épisodes caniculaires de qu'on vient de vivre, étalés entre les mois d'avril, mai et octobre. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas juste les mois de juillet, août qui seront chauds.
C'est la moitié de l'année, là, vous le dites. Hein. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on pourrait avoir des canicules.
Et c'est des périodes clés dans les entreprises, c'est des périodes de fin de saison et des périodes de rentrée, sur lesquelles, si l'activité économique est déstructurée, les transports marchent pas, les salariés ne dorment pas, parce que c'est toutes ces questions-là et tout ça, bah, tout devient très compliqué.
Alors, je ne peux que vraiment être 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les entreprises, on a quand même senti un ralentissement clair. Enfin, encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a évoquées.
Bah,
les gens qui arrivent en retard. Ou,
et les corps fatigués.
Parce qu'il fallait gérer les enfants ou des alertes à droite, à gauche, etc. Donc oui, et effectivement, on est quand même en pleine période économique. Enfin, le mois de juin, c'est toujours traditionnellement un mois très actif. Je ne parle même pas des commerçants. Moi, à titre personnel, j'ai été faire des courses samedi. Les magasins, on était tranquilles. Il n'y avait personne.
Bah oui.
C'est vraiment un gros sujet de consommation. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là aussi, le tissu économique qui est conscient de ça, mais qui, enfin, une entreprise, elle s'adapte quand elle a des certitudes. Ou est-ce que je veux dire, si on dit, ok, il y a une canicule tous les 3 ans et qui est plutôt effectivement au 15 août, bon. Ok, il faudrait, mais enfin, en arbitrage.
Non, mais là, on entre vraiment dans un nouveau monde. Hein.
Là,
c'est clairement,
on se dit, ok, ça va être régulier.
Nouveau.
Ça, enfin, vraiment, je reprends ce qui a été dit.
D'où l'urgence
ça va pas
de
être
la
uniquement
préparation.
Le 15 août. Donc, il faut qu'on traite les choses. Maintenant, il y a déjà des points qui ont été faits. Même dans les villes, on voit bien que la verdification, je ne sais pas exactement comment on dit, a commencé, quoi, si j'ose dire. Du point de vue des bâtiments, c'est plus lourd aussi. Un bâtiment, quand on le construit, c'est pour 20, 30 ou 40 ans. Oui. Mais là, les normes ont commencé à évoluer pour qu'on tienne compte de ça, etc. Mais la vitesse d'adaptation est mécaniquement plus lente. Mais c'est vrai que là, il y a, je pense que toutes les boîtes vont se dire, ah, ok, dans mes sujets, dans ma to-do list, le sujet canicule a des périodes importantes.
Il y a réellement un changement de paradigme parce que le fait que cette canicule ait lieu en période d'activité. Mais d'ailleurs, on a vu même sur la vie sociale globalement. Hein. Ça a pris en otage le bac, le brevet et tout ça. Mmh. Alors, imaginons qu'un autre épisode de canicule ait lieu le 15 septembre, en pleine rentrée économique et autres. C'est-à-dire, si la France se remet à l'arrêt pendant une semaine, au-delà des dégâts sanitaires, hein, ce que je minimise pas, c'est vraiment des problématiques. On peut pas être sur des logiques de yo-yo, c'est-à-dire en gros le thermomètre devient une sorte de détroit d'Hormuz, quoi.
Je suis persuadé que ça va être pris en compte. Est-ce que je veux dire, on a la réalité des choses, on la touche du doigt, ok, on va le traiter. Alors, je dis pas que ça va être en 30 secondes, machin, mais on va le faire, voilà, on va le traiter.
On a vu les entreprises hein, qui étaient quand même assez résilientes par rapport à la sphère publique. Moi, c'est le hiatus que j'ai vu entre les deux, là où l'école et l'hôpital étaient surchauffés. Bah, les entreprises ouvraient leurs portes pour accueillir les enfants des salariés, notamment. Je ne sais pas, Céline Antonin qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Céline, bonjour. Économiste à l'OFCE. Si on peut anticiper, ou en tout cas si vous avez regardé l'impact que peut avoir ces fortes vagues de chaleur en période d'activité. Là, on a plutôt des bonnes nouvelles, ce qu'on disait en début d'émission sur la consommation, parce qu'on a beaucoup consommé d'électricité. Le Premier ministre Sébastien Lecornu indiquait hier que la consommation d'énergie avait augmenté de 25% pendant la canicule. Ça, ce sont les climatiseurs. Quand on est à plein, évidemment, ça rentre dans le PIB. Donc, est-ce que la canicule, c'est plutôt bon ou mauvais pour la croissance ?
Alors, bon, pour l'instant, j'avoue que c'est encore difficile à dire, mais il est vrai que, en fait, il y a une différence entre une canicule, j'allais dire anticipée, bien gérée, puis une canicule qui va nous prendre au dépourvu. Oui. Effectivement, donc tout va dépendre de la préparation ou de l'impréparation, justement, des acteurs. Bon, là, en l'occurrence, on a quand même vu qu'il y avait une sorte, enfin, moi, je trouve, de changement de paradigme, parce qu'on s'est rendu compte que, quand même, enfin, on a entendu un certain nombre de propositions, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, de congés climatiques, etc. Donc, je pense que les impacts sur la croissance peuvent être très différents selon ce qu'on fait.
Selon les solutions qu'on y apporte.
Voilà, selon les solutions qu'on peut apporter. Moi, par exemple, quand j'ai l'histoire du congé climatique, j'y crois très peu. Enfin, oui. J'y crois même pas du tout.
Oui. C'est pour ça qu'on va pas trop en parler. Oui.
Voilà. Donc, même en Espagne, d'ailleurs, apparemment, même en Espagne, c'est assez décrié. Et puis, le seuil de déclenchement n'est pas du tout clair.
C'était pour d'autres raisons.
Tout à fait. Et puis, le seuil de déclenchement est tel que. Et puis, je pense qu'on peut pas du tout traiter de la même façon un cadre qui travaille dans un bureau climatisé et effectivement quelqu'un qui travaille sur un chantier. Mais je pense que là aussi, il y a une forme, je sais qu'on aime bien les choses très centralisées, mais il y a quand même une forme aussi d'intelligence collective qui consiste à se dire qu'il faut vraiment faire du cas par cas et que les entreprises vont aussi s'adapter chacune à leur situation quoi, et que l'État ne peut pas non plus tout gérer.
L'État ne peut pas tout faire. Vous êtes d'accord avec Christian Poyot et mon édito ce matin.
Moi, je voudrais quand même intervenir sur cette histoire de congé climatique. Quoi.
Enfin, coup de gueule de Christian Poyot.
on se pince, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement n'importe quoi.
S'il fait chaud, si on meurt de chaud, qu'il y ait des salles, des ouvriers, des couvreurs qui sont sur les toits quand il fait 40 degrés sur les toits, ils doivent faire 55.
C'est la santé au travail. De même que quand il fait très froid, on a le droit, même un droit de retrait, si on peut pas travailler.
Et une obligation des entreprises de veiller à la bonne santé de leurs salariés.
Moi, je connais le sujet pour différentes raisons. Ils démarrent à 6h du matin, puis effectivement, ils arrêtent à midi et compagnie. Mais je veux dire, cette réaction, cette haine de l'économie de marché, de dire n'importe quoi, de dire d'immenses conneries, excusez-moi du terme, c'est pas très poli, mais non, enfin, faut arrêter, quoi.
De mesures sociales, voilà. Il y a des idées.
Que des partis politiques osent sortir ce genre de choses, c'est dramatique, c'est affligeant, enfin, je sais plus quoi dire, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi.
Voilà. Tout à l'heure, j'évoquais un concours Lépine, c'est-à-dire, pour moi, honnêtement, ce congé climatique est pire que la climatisation pour tous, hein, c'est-à-dire, c'est la mauvaise réponse à une vraie question, très honnêtement. Moi, ce qui me marque dans ce débat-là, c'est comment, en une vingtaine d'années, on a changé. C'est-à-dire que quand il s'agissait de faire un effort sur les seniors, il y a une vingtaine d'années, on avait sacrifié le lundi de Pentecôte. Mmh. Maintenant, il fait chaud, on va moins travailler.
Voilà.
Donc, en fait, non, mais c'est comment on a glissé dans ce débat-là aujourd'hui.
Très bien.
Tous les sujets sont propices à les ramener à la réduction du temps de travail, etc.
Une formation d'esprit chez certains.
C'est pavlovien.
Et ce glissement-là, en l'espace de deux décennies, il est vraiment phénoménal. C'est-à-dire que, je sais qu'il y a une délégation de patronat, de syndicats qui doit partir en Espagne là, dans les semaines qui viennent pour aller comprendre.
Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a annoncé qu'il allait voir emporter tout le monde pour découvrir le rythme.
Allons faire déjà, ouvrons-nous. C'est-à-dire, c'est bien, mais c'est dommage qu'on le fasse en urgence face à une canicule. Mais on va comprendre ce qu'est un pays qui est un peu plus chaud. C'est-à-dire que oui, on va probablement évoluer sur aussi nos horaires.
Oui.
Peut-être que la fraîche va devenir un horaire sur lequel on sera plus actif. Les fins de journée, on sera plus actif.
Et voilà. Aussi, parce que quand vous voyez les canards arriver à 10h30, effectivement, ils arriveront.
On va s'adapter.
On va s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, et alors c'est peut-être la limite, j'allais dire, du tout clim proposé par le RN, parce que le tout clim, c'est se dire on peut se déplacer d'îlot en îlot. Malheureusement, la vie est pas faite comme ça. C'est-à-dire qu'il faut adapter collectivement aussi nos modes de vie. Oui. C'est-à-dire même si on va dans un endroit climatisé à un autre, il y a des gens d'abord qui peuvent pas travailler en climatisation. Je pense aux gens du BTP. Oui, bien sûr. Je pense à l'agriculture et plein de domaines et la restauration et tout ça. Donc il va falloir qu'on repense collectivement sur des périodes de l'année. Nos modes de vie, en fait, c'est pas sûrement pas très agréable, mais le débat est très mal posé depuis la semaine dernière.
Oui, et puis politique. C'est pour ça que ça doit sans doute passer par des réflexions au niveau des branches, au niveau des entreprises, et pas uniquement global. Enfin, parce que effectivement, vous traitez pas du tout de la même façon les différents cas. Donc,
mais toutes les réponses ne sont pas à Matignon.
C'est ce que devraient faire les acteurs politiques, si j'ose dire. C'est encore une fois, ça y est, j'ai le plan génial qui va tout régler, etc. C'est d'abord d'appeler à la responsabilité, à la prise de conscience de tout un chacun et de modifier ses habitudes. Ces manières de travailler. Ça ne veut pas dire que l'État ne doit rien faire, ça, on est bien d'accord. Ouais. Mais encore une fois, si on a. Enfin, je veux dire, les acteurs politiques eux-mêmes sont dans ce tropisme de dire dès qu'il y a une question, ça y est, je propose la solution sans apporter la réponse qui devrait être la bonne, c'est-à-dire, encore une fois, d'être sur le terrain.
La politique.
Non, mais l'État devrait se concentrer en plus sur ce qui est de son périmètre, c'est-à-dire vraiment ce qui est régalien, et la santé, l'éducation, etc. Là, il peut vraiment agir. Mm. Et pour le reste, je pense qu'il faut vraiment que. Et d'ailleurs, en termes de financement, c'est pareil. Je pense qu'il faut que ça passe aussi au niveau de la branche, de l'entreprise, qui a un financement mixte, s'il faut songer à des manières justement de lutter contre le réchauffement.
Allez,
parce que sinon, c'est vrai que c'est aussi une déresponsabilisation même des acteurs privés.
Mais on voit que tout le monde se noie dans cette déresponsabilisation.
À la limite, il y aura un congé climatique et puis les entreprises ne font plus d'efforts non plus. Donc c'est...
Allez, il nous reste 5 minutes avant la coupure pub. Je voulais qu'on parle, Christian, avec vous de ce sujet d'IA encore et ce méga plan d'investissement. On parle de 1000 milliards. Puce, data center, application, tout ça, c'est autour de Samsung et SK Hynix. Alors, deux acteurs déjà ultra dominants, qui dominent déjà plus de 70% du marché mondial des mémoires DRAM et HBM. Moi, j'ai un peu peur quand je vois la puissance financière que sont capables de mettre ces pays sur. Alors, c'est sur une dizaine d'années, attention. Mais l'Europe face à ça,
Alors,
on sent un peu tétanisé. Bon, et puis surtout,
on est
en arrière.
Dans une époque où les chiffres se comptent en milliards.
Bah, c'est ça. C'est un peu la nouvelle unité de l'IA maintenant.
C'est l'auto. C'est bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y aura un très fort investissement? Oui. Après, moi, j'avoue que je ne prête plus tellement attention aux chiffres en eux-mêmes parce que de toute façon, on est dans l'exagération.
C'est de la com politique.
Ouais, exactement. Bon. Deuxième remarque, tout ça rentre dans une chaîne de valeur de l'IA. Quand on dit IA, alors déjà, il y a l'IA générative, l'IA prédictive, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mais l'IA, c'est plein de choses. Voilà. Bon. Sur l'IA générative en tant que telle, bah oui, alors il y a les terres rares, et puis après, je fais court, il y a effectivement les puces Nvidia qui procèdent, et puis après, il y a des RAM qui stockent l'information. Bon. La Corée du Sud là-dessus est très forte, notamment avec Samsung. Oui. Mieux pour eux. Bon, donc effectivement, ils ont un bout de la chaîne de valeur sur lequel ils sont très bien positionnés et ils cherchent à l'accélérer. Pas de problème. Superbe réflexion. Est-ce que ça veut dire que la réaction de l'Europe de dire, il faut qu'on fasse la même chose? Non, plus de toute façon, à l'instant T, on n'a pas de gens qui produisent ça. Par contre, on peut être bon et on doit être bon sur d'autres morceaux de la chaîne de valeur.
Qu'est-ce qu'on a en Europe?
À
part devenir le pompiste avec nos centrales nucléaires, on va faire le plein des data centers, mais à part ça.
On sait quand même faire des choses, d'accord? Et les data centers, ils ont quand même plutôt toujours intérêt à être proche des lieux de consommation.
Oui.
Sur les LLM en tant que tels, bon, alors on ressort à chaque fois Mistral, mais enfin, c'est vrai qu'au moins on a ça, par exemple, la Corée du Sud n'a aucun acteur sur ce sujet-là, voilà. Et puis, on a les data. Moi, je m'épuise à réputer ça. On a les data parce que tout ça forme, parce que tout ça, c'est de la mécanique. Puis au final, qu'est-ce qu'on fait? On prend des data et on analyse ces data pour en tirer des conclusions. D'accord? Donc vraiment l'essence pure, c'est la data, voilà. Mmh. Et la data, là-dessus, l'Europe et notamment la France a plein de choses à faire. Donc, j'essaie de faire un parallèle. On utilise des voitures, il y a de l'essence, il y aura pas d'essence en France ou pas. Alors, on va passer l'électricité, mais il y a des pneus, c'est du caoutchouc, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, après, il y a des données dans ces voitures qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer le fonctionnement, la vie et proposer des services. Donc, très bien que la Corée du Sud fasse ça, ça semble logique. Est-ce qu'il faut pour autant s'exciter et se dire ça y est, c'est dramatique parce que l'Europe n'est pas positionnée spécifiquement sur le sujet des RAM?
Mais on voit que c'est le nouveau moteur mondial de la croissance. Hein,
oui, l'IA, mais l'IA les acteurs, par contre, qui font les machines, qui produisent ces puces, c'est l'acteur...
Il y a SML, effectivement, qui imprime les puces.
Leaders mondiaux,
on a
aussi nos sujets. Est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux? Est-ce que globalement, on est un peu trop en retard par rapport à ce qu'on devrait être. Oui, hein, je suis pas en train de dire qu'il y a là tout est parfait de manière générale. Alors, mais ne nous excitons pas par rapport à ces montants et focussons-nous sur les points sur lesquels on a vraiment manière à jouer.
Céline Antonin.
Oui, alors par exemple sur les histoires de puces, je sais qu'il y a des nouvelles générations de puces qui sont plus spécialisées dans l'inférence, par exemple, sur lesquelles on pourrait avoir une valeur ajoutée. Comme vous dites, il y a la question de la donnée et donc d'où l'importance. Je pense que ça pose, l'IA pose aussi la question de notre souveraineté et c'est vrai que avec la question de ces centres de données, on doit vraiment relocaliser la puissance sur le territoire parce que effectivement le problème c'est que nos données elles partent aussi à l'étranger donc ça nous pose vraiment un problème de souveraineté. Donc il y a ça, il y a le fait que par exemple moi j'ai un chiffre à vous donner sur les supercalculateurs, la puissance de calcul public, elle est à moitié aux États-Unis, enfin c'est 50% pour les États-Unis, c'est 24% pour l'Europe. Donc on a quand même effectivement un retard qu'on peut à mon avis essayer de combler sur certaines choses, sur le financement des infrastructures, sur la R&D, sur l'IA. Et si je reprends par exemple les conclusions donc du rapport du comité IA donc qui avait été conduit par Aguillon et Bouvreau, on avait donc ils préconisaient 5 milliards d'euros par an pendant 10 ans d'investissement, ce qui est pas un montant non plus énorme, c'est-à-dire que par rapport aux 1000 milliards là dont on parle, c'est pas grand-chose, mais déjà avec ça, il y avait quand même moyen de faire un certain nombre de choses parce que on a aussi de très bons ingénieurs et de très de enfin voilà
Non, moi ce qui me marque sur la Corée, et j'entends et je rebondis sur ce que vous disiez Raphaël tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir peur de l'Europe? Je veux dire la Corée aussi prend un risque hein, parce que tout ça on est dans des chiffres délirants et
alors il y a beaucoup de capex et d'investissement sur le retour sur investissement et
la vitesse d'investissement reste à mesurer.
Si on a une bulle IA qui claque un jour l'économie quand même. Donc ce qui me marque plutôt en profondeur en tout cas dans la situation dans laquelle on est sur la puissance on va dire de l'IA en tant qu'objet marketing financier aussi on va pas se mentir, c'est que avant on avait les pétromonarchies, maintenant on a les puceaux-monarchies qui sont en train d'apparaître.
Pas mal.
En fait des pays qui commencent à avoir une forme de rente qui s'installe autour de l'IA. Je rappelle l'histoire de Samsung, hein, formé 290 000 euros de primes par salarié. 290 000 euros de primes par salarié. Avec ça, on en paye des clims. Hein. En clair, aujourd'hui, il y a quand même une économie qui, on va pas se mentir, dans ses mensurations autour de l'IA, est un objet assez bizarroïde et qui nous interroge sur que va devenir financièrement tout ça, parce que c'est SpaceX est une bulle énorme en l'état quand même, et on verra quand tout va atterrir. Mais il y a un virage qui est pris de la part d'un pays qui sait qu'il rentre en compétition frontale avec les États-Unis, la Chine et Taïwan, et sur lequel si on se fait décrocher dans l'état actuel, aujourd'hui, la Corée peut se faire déclasser très très rapidement. C'est-à-dire que c'est une bataille mondiale aujourd'hui. Alors là où je suis entièrement d'accord avec Christian, c'est que cette bataille, on peut pas rentrer dedans aujourd'hui. Honnêtement, la bataille des semi-conducteurs,
bah oui, mais comme c'est le moteur de la croissance mondiale, on se dit qu'on est un peu paumé.
C'est une chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur. C'est-à-dire que l'Europe n'a jamais été sur les chips. L'Europe n'a jamais été vraiment un acteur central.
On les imprime.
Voilà, on va pas chercher.
On va faire des très spécialisés.
Oui, voilà. sur la niche.
En revanche, sur la data, sur les LLM, sur des Mistral et d'autres choses, et sur la Gentic aussi, on a des gros acteurs qui doivent prendre des virages.
Et le quantique qui va arriver.
Oui, et des acteurs...
Il faut jouer sur ces avantages comparatifs, ce que fait la Corée, puisque 18% de ses exports, c'est justement les semi-conducteurs. Voilà.
On va parler export, justement, avec la Chine et déséquilibre du marché de l'exportation. Avec la Chine, plus de 1 milliard d'euros ou de dollars, je ne sais plus, par jour, c'est le déficit commercial par rapport à la Chine. Vis-à-vis de la Chine, le ministre chinois était hier à Bruxelles en discussion avec notre commissaire Marco Stefkovic. On va en parler tout de suite après la coupure pub et puis on viendra aussi sur le Bitcoin et l'or qui s'effondre. On va essayer de comprendre pourquoi. Restez avec nous, on se retrouve dans une minute.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business et les experts avec Christian Poyot, cofondateur et CEO de Micropole Group Talent, Céline Antonin, économiste à l'OFCE, et Ludovic de Sauté, directeur délégué de la rédaction de La Tribune. On va revenir ensemble sur cette rencontre entre le commissaire européen au commerce extérieur, Marco Stefkovic, qui a reçu hier à Bruxelles le ministre chinois du commerce Wang Wentao. L'Union européenne et la Chine qui ont dit vouloir intensifier leurs discussions pour tenter de résoudre, gentiment, à l'amiable, les tensions commerciales qui, elles, sont de plus en plus vives entre les 27 et Pékin. On va écouter tout de suite le commissaire européen nous débriefer cette réunion.
The gap is widening.
L'écart se creuse, les exportations chinoises vers l'UE ne cessent d'augmenter, tandis que notre part de marché en Chine ne cesse de diminuer. Cette tendance n'est pas tenable et le statu quo n'est pas une option. L'UE reste ouverte aux échanges commerciaux, mais nous devons défendre notre industrie et continuer à œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables à l'échelle mondiale, afin que nos industries puissent rivaliser à armes égales.
Bon, on voit que ça se tend, hein, Céline Antonin, entre l'Union européenne et la Chine. Il y a de quoi. Je vous le disais en introduction, plus d'un milliard de déficit commercial par jour, désormais, entre la Chine et l'Union européenne. Je pense que la canicule, avec l'augmentation des cadences de production des climatiseurs chinois là, qui voient le marché européen en grand besoin, ça risque de s'aggraver encore à l'avenir.
Oui, tout à fait. Bon, on sait que c'est devenu l'usine du monde. Et puis, il y a cet effet que mes collègues du CEPI appellent le second choc chinois, c'est-à-dire qu'avec l'instauration des droits de douane aux États-Unis, en fait, l'Europe est devenue aussi un peu le déversoir de certains produits chinois. Alors, l'idée, c'était que si l'Europe arrivait à les réexporter à son tour, ça pouvait être bénéfique, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, on reçoit la concurrence des produits chinois sans qu'on arrive, nous, à être un hub d'exportation. Donc voilà. Donc, on a perdu.
Donc, la déferlante est réelle.
La déferlante est réelle. Et justement, je voulais en profiter pour revenir un petit peu sur la manière dont l'Europe a géré cette relation avec la Chine et l'erreur stratégique qu'elle a commise. Moi, je travaille en ce moment sur la question de l'Allemagne, de la mutation du secteur automobile, de la crise du secteur automobile.
Modèle économique allemand.
Voilà. Et de la transition électrique et de ce qui se passe avec la Chine. Donc, avec ma collègue Sandrine Levasseur, on est en train de publier un papier sur ça. Et justement, donc, en fait, ce qui c'est, pour le dire de façon très synthétique, l'Europe a quand même cru au marché, donc on a cru à la politique de concurrence plus qu'à la politique industrielle, alors que la Chine a construit une véritable politique industrielle, donc pendant 20 ans, avec des subventions à la R&D, avec un marché intérieur qui était quand même assez protégé, des plans quinquennaux, enfin bon, tout ça on sait. Et par exemple, sur la production automobile mondiale, elle est passée de 8% à 41% de la production automobile mondiale en l'espace de 20 ans. Donc c'est dire quand même le bon.
4 voitures sur 10 produites autour de la planète aujourd'hui sont des voitures chinoises.
Exactement, voilà, sont produites par la Chine.
Alors, c'est spectaculaire.
Tout à fait. Donc, alors, en fait, les industriels européens, ils ont financé leurs futurs concurrents. On l'a vu avec les co-entreprises. Les entreprises allemandes, elles ont beaucoup délocalisé en Chine. Alors, au début, elles regardaient la rentabilité à court terme. Et c'est vrai que ça leur a été très profitable, hein, Volkswagen, etc. ont vraiment profité de ça. Mais en réalité, les Chinois ont quand même incorporé ce savoir-faire. Et ils sont passés devant l'Allemagne en 2023, sont devenus le premier exportateur, donc devant l'Allemagne. Et en fait, justement, ce choc est automobile quelque part. Il révèle réellement, et c'est pour ça que j'en parle, ce retard européen, parce qu'en plus, les groupes chinois, ils ont cet avantage d'être totalement intégrés de la batterie jusqu'à l'aval de la chaîne, alors que nous, on a un modèle en Europe et les Allemands, exactement, très fragmenté, des choses qui sont produites dans certains pays, et puis nous qui faisons la partie finale, enfin qui sommes juste à un bout de la chaîne. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Et donc, je pense que au-delà des chiffres, il y a une vraie bataille qui se fait, qui est doctrinale, sur la manière dont on conçoit notre politique industrielle, sur le fait que ce n'est pas qu'une politique de concurrence. Et là, je pense qu'il y a un revirement à faire à 180 degrés par rapport à ce qu'on a eu en tête. Donc, pour vous dire en gros, trois points qu'il faut avoir en tête. Oui. Je pense qu'il faut vraiment être capable d'articuler cette politique industrielle avec la politique de concurrence, chose qu'on n'a pas du tout fait.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plus de politique industrielle?
Oui, tout à fait. Ça veut dire que ne pas avoir peur d'avoir des champions, au moins européens, et ne pas sans arrêt se tirer une balle dans le pied, en fait, en disant on est les chantres de la libre concurrence, certes, mais il faut quand même avoir une politique industrielle, et parfois ça impose d'avoir aussi une préférence pour l'Europe et pour ce qui est européen. Donc voilà, c'est ce que font les autres
blocs. Donc préférence européenne et quoi, droit de douane massif autour de, c'est ce que proposait Thomas Grébin, hein, dans un rapport du plan, par exemple, Christian Poyot, puis Ludovic.
Je pense pas qu'on ait, enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein. je pense pas qu'on ait tant manqué de politique industrielle, mais plutôt de clarté et de réalisme par rapport au marché. Parce que le sujet, c'est qu'on a cru qu'on était dans un marché où tout le monde était fair.
Oui, tout le monde jouait les...
Il y avait des règles, il y avait l'OMC qui allait...
Ah bah on a vu que l'ouverture de la Chine à l'OMC...
Voilà, donc un peu
l'entrée de la Chine dans l'OMC n'a pas changé.
Mais c'est vrai que c'était une politique industrielle qui, du coup, était quasiment inexistante, parce que dès qu'on voulait mettre la moindre... Enfin, je veux dire, par exemple, le fait de subventionner une entreprise plutôt que d'autres, ça, c'est interdit par les traités et c'est normal. En revanche, si vous voulez subventionner une filière pour créer des champions européens, par exemple dans l'IA, bah rien ne vous l'interdit. Et je veux dire, et
mais c'est pas tant subventionner. Enfin, encore une fois, je n'ai pas de désaccord de fond, hein, mais c'est pas tant de subventionner que dire on est face à des gens qui ne respectent pas les règles.
Voilà. Par ailleurs,
donc il faut pas se dire on va faire ça parce que ça a fonctionné de telle manière où c'est très joli, on va pouvoir arbitrer. Et si c'est pas bien, c'est pas comme ça. Ça n'existe pas.
Les Chinois. Et donc ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on arrête les règles nous aussi?
Mais il faut faire comme les Chinois. Il faut passer son temps à dire, on est là pour respecter les règles, le libre-échange, c'est ce qu'ils disent en permanence. Ouais. Et puis il y a ce qu'ils disent, puis il y a ce qu'ils font. Mais il faut faire la même chose. Il faut continuer à dire, on est pour les règles, on va être à l'OMC et compagnie. Puis derrière, on fait totalement différemment. Mais c'est ce que font les Chinois. Enfin, faut arrêter d'être naïf sur le sujet. Voilà. Et donc, il faut faire comme eux. Donc, une politique industrielle, mais une politique industrielle en ayant une vision claire de quelles sont les règles internationales. Sachant finalement, il n'y a pas de règles, si j'ose dire.
C'est la loi du plus fort.
Voilà,
hein.
Donc, faut c'est ça, assez simple. Politique industrielle, et vision claire de quelle est la nature du marché et, sans règles.
Et également une vision comme l'on... Alors moi, je veux dire, je ne suis pas du tout un conditionnel de la Chine, hein, je veux dire, mais par exemple, la question du plan, de la planification...
Ah, planification, plan, oui, ça c'est clair.
Ils ont encore décidé de leur plan 2026-2030. Nous, on est encore en train de se demander est-ce que 2035, on arrête ou pas les véhicules électriques. Enfin, je veux dire, dans un monde d'une telle incertitude, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas investir, il faut qu'il y ait de la clarté pour investir. Donc ça, c'est aussi un problème. Il faut qu'il y ait un cap. Et ça, c'est malheureusement ce qui nous manque.
Ce que souligne Céline, à mon sens, c'est important. Alors, c'est parce que là, c'est finalement une lecture un peu dans le temps historique. Et c'est clair que l'Europe a une responsabilité coupable dans la séquence. Parce que si la Chine s'est industrialisée, c'est parce qu'on s'est désindustrialisé aussi. Hein. Donc, on va pas se mentir. Enfin, il y a eu des choix, il y a eu des orientations, à la fois de l'État, mais aussi d'entreprises. Volkswagen est, le cas d'école. Hein. C'est-à-dire, quand Volkswagen annonce qu'il va probablement licencier 100 000 salariés pour s'adapter au monde qui vient, on voit bien l'erreur stratégique d'un groupe qui était numéro un mondial.
Je rappelle que l'industrie automobile européenne, c'est 13 à 15 millions de salariés. Ouais. J'ai plus chiffré une quinzaine de millions de salariés. Hein.
En tout cas, c'est au-dessus de 10 millions.
C'est massif.
Profondément, moi, ce qui m'inquiète à la fois, c'est à quelle vitesse on aura ce changement de logiciel de la part de Bruxelles, finalement, de se dire, en fait, attention, parce que les États-Unis ont déjà changé le jeu, à nous aussi de changer le jeu, en fait. On est entré dans une nouvelle séquence. Après, en profondeur, ce qui est, je trouve inquiétant, c'est que quand on parle de 1000 milliards par jour, tout ça, on n'est plus dans la notion de guerre commerciale. C'est une dépendance.
Un milliard par jour, on va pas mettre 1000 milliards par jour parce que ça nous fait.
On n'est plus dans une logique de guerre commerciale, à savoir si les ampoules, les je sais pas quoi sont produits. Ça devient de la dépendance stratégique. C'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans plein de domaines, des médicaments, de la chimie, de l'énergie et autres, la question n'est même pas de savoir si les Chinois ou pas font du dumping et tout ça, c'est qu'on n'en fait plus. On est en notion de dépendance. C'est ça qui est plus grave, à mon avis. Et c'est ça le fond du débat sur lequel il faut qu'il y ait un réveil européen. Parce que on rentre dans un monde qui est fragmenté, et si demain on n'a plus accès à certaines molécules pour les médicaments, l'histoire, elle n'est plus de savoir si on va mettre des taxes de 10 ou 20%. L'histoire, elle est de savoir où vont les médicaments.
Ouais, mais Ludovic, pourquoi on a fait ça? Parce que c'était moins cher.
Oui, mais la dépendance stratégique,
c'est un gain de pouvoir d'achat de 1500 euros par français, hein, les produits chinois.
Mais la dépendance, là, on a atteint un seuil qui maintenant, j'insiste lourdement là-dessus, ce n'est plus une guerre commerciale, on est dans une logique de dépendance stratégique. Et attention, ce n'est plus le même jeu, c'est plus la même partie.
Je suis, mais mille fois d'accord avec ça. Finalement, on a fait ça et par naïveté, et parce qu'en même temps, bah, c'était notre confort à nous. On avait beaucoup de choses pour beaucoup moins cher et notre confort, etc. Voilà. Et puis en même temps, et là c'est parti de la France, on travaillait de moins en moins, on refusait la réforme des retraites, enfin les 35 heures et toutes les âneries qui ont été faites pendant les années. Voilà. Donc le changement de paradigme, il est dire effectivement, il faut qu'on soit beaucoup plus dur vis-à-vis des Chinois dans un bras de fer qu'eux assument complètement.
C'est la question que j'allais vous poser. La Commission vient de présenter un paquet, hein, de durcissement des relations commerciales avec la Chine. La grande question, c'est est-ce que les chefs d'État et de gouvernement gouvernements vont s'en emparer, auront le courage d'aller à l'opposition frontale avec la Chine, quand on sait qu'on est dépendant, notamment sur les terres rares, par exemple.
On peut considérer que ça bouge quand même. Les Allemands, qui sont le premier moteur économique de l'Europe et qui étaient des très bons exportateurs, enfin, qu'ils sont encore, mais enfin, ça a sensiblement baissé, ont quand même bougé de position par rapport à ça. Mais le paradigme de ça, c'est que être dur, c'est très bien, et puis après, il faut se dire, bah, ok, donc ça aura un impact sur le pouvoir d'achat des Européens, hein, faut pas se cacher. Les médicaments sont vraiment un sujet dramatique, hein, parce que les composants essentiels des médicaments, enfin, je ne suis pas du tout pharmacien, sont manifestement fabriqués en Chine. Comme vous le disiez, Raphaël, si demain c'est en Europe, bah, ça va coûter plus cher. Voilà. Oui. Donc, il faut qu'on arbitre entre les choses. Mais il faut le faire. Enfin, pour le coup, c'est crucial, vital. Enfin, je ne sais pas quel terme faut utiliser.
Il faut aller à la confrontation.
Et puis, je pense qu'il y a des choses qui me paraissent de bon sens. Mais par exemple, quand on a effectivement fait un certain nombre de co-entreprises avec l'Allemagne, avec la Chine, effectivement, il y a eu un transfert de technologie qui a été fait. Je veux dire, le minimum, c'est demander de la réciprocité, de ne pas accepter.
Non, mais c'est l'une des réponses à Bruxelles, c'est-à-dire venez les investissements chinois aussi. Ils ont augmenté
10% l'année dernière. Qu'il va y avoir là
il faut
aussi,
du transfert de technologie, que les salariés soient européens et qu'il y ait des co-entreprises, c'est-à-dire que vous investissez.
Et le problème, c'est que tous les pays vont sans doute être en rivalité pour attirer les investissements chinois. Donc, c'est pas dit que tous les pays s'alignent sur le même standard.
On n'arrive pas à le faire, salut Ludovic, en Europe.
On a du mal à le faire, mais en plus, il y a une question de timing, c'est-à-dire que on se réveille là. Enfin, on va dire l'Europe se réveille grâce à Trump. Presque, j'allais dire. Non, mais honnêtement, c'est-à-dire que finalement, c'est un effet, c'est un peu un coup de billard à trois bandes, c'est le fléchage dont parlait Céline à l'instant, c'est-à-dire, ok, il y a eu un reroutage, on va dire, des flux commerciaux vers l'Europe, donc on se réveille, mais on se réveille un peu tardivement. C'est comme la taxe des petits colis, c'est-à-dire que on se réveille sur les petits colis une fois que les centres-villes ont tous tiré le rideau dans toutes les boutiques, dans toutes les villes françaises moyennes. C'est-à-dire que, en fait, le mal est fait en profondeur, c'est-à-dire que c'est pas juste une question d'usage, d'habitude et tout ça. C'est-à-dire que quand on se réveille, j'allais dire, Poissy est à l'arrêt, les centres-villes, une à une, les enseignes ont fermé boutique. Donc, il est temps de se réveiller sur les coups d'après. C'est-à-dire qu'en fait, là, le mal est profond dans certains domaines. Il y a encore d'autres domaines sur lesquels il faut qu'on se réveille. Il y a un dossier, j'attends un peu qu'il monte, c'est les chaînes de production d'Airbus en Chine. Parce qu'il y a un véritable chantage. On l'a découvert il y a deux mois, c'est que les livraisons d'Airbus ont été bloquées en Chine, puisque la Chine commence à faire un chantage pour que ses propres avions soient reconnus en Europe. Donc, et bloque du coup les chaînes de production et livraisons d'Airbus en Chine. On y va tout droit sur l'aéronautique. On va refaire le piège.
Il faut assumer le bras de fer. Je voudrais juste faire une parenthèse, si vous le permettez, sur la taxe des petits colis. Je sais pas si vous avez suivi le truc, là.
Qui change, hein. Demain, elle est annulée. C'est la taxe européenne qui prend la suite à 3 euros.
Débat, mais on a instauré cette taxe de 2 euros tout seul en Europe 6 mois avant tout le monde. Et ça devait rapporter 400 millions. Au résultat, tous les colis, ils ont été à Bruxelles. Et au final, ça a rapporté 5 millions. Enfin, rien, quoi, grosso modo. Et on devait même, sur la taxe européenne, rajouter les 2 euros. Alors là, on s'est dit, bon, finalement, non, on va retirer les 2 euros. Mais quels sont les fonctionnaires au sens large qui ont pondu, ou les politiques qui ont pondu ce genre de truc? Enfin, on tape la tête sur les murs. C'est ridicule, franchement. Enfin, excusez-moi cet aparté, mais enfin, qui est assez...
Non, mais et juste pour revenir sur la question du pouvoir d'achat, effectivement, il faut accepter de payer plus cher. Mais après, ça rentre aussi dans un débat plus global sur la quantité versus la qualité de ce qu'on fait aussi. Donc, il y a aussi toute une réflexion sur le produire mieux et produire de qualité et de façon plus durable. Et puis, de manière générale, certes, on peut gagner en pouvoir d'achat à court terme, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'emplois en France? Enfin, je veux dire, donc il y a quand même aussi une question sur notre souveraineté et sur le fait que, effectivement, maintenir l'emploi, ça a aussi une vertu en termes de pouvoir d'achat.
Non, mais je reviens sur le point qu'évoquait Ludovic là, sur les avions. C'est un bras de fer, mais ce n'est pas un bras de fer qui va s'arrêter demain. On a l'impression de dire, bon, on va trouver le bras de fer, puis on va trouver l'équilibre. Mais non, mais ça va être comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quoi. C'est une confrontation économique et on espère qu'elle s'arrêtera là entre les États d'une manière générale. Donc sur les avions, aujourd'hui, ils ne savent pas produire les moteurs, quand même, les Chinois. Hein. Ça, ils n'en sont pas à ce niveau-là, quoi, si j'ose dire. Donc, effectivement, ils veulent imposer la certification. Ben, il faut dire non, il faut résister par rapport à ça. En même temps, si on bloque...
Mais on ne sait pas faire ça en Europe, Christian.
Mais on va apprendre. Si les chaînes de production d'avions ne sortent pas en Chine, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il va y avoir moins d'avions pour Air China et compagnie. Et c'est eux qui les utilisent le plus. Donc, vous voulez bloquer les chaînes? Ben, allons-y, on bloque les chaînes. Pas de problème. Vous n'avez plus d'avions, vous les achetez chez nous. Enfin, je dis ça, c'est peut-être un peu simpliste, mais il faut avoir la volonté de faire du bras de fer avec les Chinois.
À devenir un peu plus carnivore et un peu moins herbivore, ce que disait Emmanuel Macron.
Et puis c'est vrai que c'est même pas une question de revenir, par exemple, parce que effectivement la critique, c'est de dire le libre-échange a montré ses limites, il faut revenir à une forme de protectionnisme. C'est même pas ça, parce que même si on reprend la théorie économique, dans la théorie des avantages comparatifs, vous avez quand même l'idée que chaque pays se spécialise là où il est bon. Oui. Sauf que nous, maintenant, on a l'impression qu'il y a plus beaucoup de domaines dans lesquels on arrive à montrer qu'on est bon, puisqu'on se désindustrialise un peu dans tout. Donc c'est là que, enfin, je veux dire, on a quand même quelques cartes à jouer. Et sur ces domaines-là, il faut qu'on ait vraiment une stratégie industrielle forte. Enfin,
je vais faire un parallèle sur les avions avec le SCAF. Hein. Oui. Tout le monde a suivi le match.
L'avion de défense européen.
Dassault a fait un bras de fer. Dit non, je ne céderai pas. C'est moi qui ai la compétence pour faire les avions de sixième génération et c'est indiscutable. Et donc je ne céderai pas mes assets, enfin mon savoir-faire, ma technologie à d'autres acteurs, même s'ils sont européens. Voilà. Donc il faut, alors le comparatif vaut ce qu'il vaut, mais il faut savoir avoir ce genre de position. Moi, encore une fois, acteur du verre à moitié plein, je pense que l'Europe, ça y est en train de bouger. Après, on est un vieux continent, il y a 27 pays, etc., etc. En face de nous, on a 1 400 000 000 de personnes qui, bon, voilà. Mais on peut, ça bouge. Pas suffisamment vite, mais ça bouge.
Oui, je suis d'accord avec Christian, ça bouge. La question, c'est l'alignement des 27 et notamment, historiquement, l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne malheureusement, a tout le temps été à contre-temps sur ces dossiers-là, historiquement, que ça soit sur le gaz russe, que ça soit sur l'automobile aujourd'hui. C'est-à-dire que toujours cette ambiguïté, le nucléaire et tout ça, de regarder.
Parce que même sur l'automobile, ils sont, alors qu'ils sont quand même confrontés, touchés de plein fouet, ils en sont encore à vouloir ne pas appliquer en 2035.
Avec l'espoir d'avoir encore accès au marché chinois et finalement de finir de se faire laminer, on va pas se mentir. L'Allemagne qui a énormément pesé sur ce que vous évoquez. Qui est Céline à l'instant sur le fait de bouger le calendrier de la fin de l'automobile thermique et tout ça. C'est-à-dire que, évidemment, tout ça, c'est des mesures, mais en fait, c'était des occasions de reformater une industrie. C'est-à-dire de se dire, en fait, c'est pas juste changer l'habitude des gens. C'est juste se dire, il y a une rupture à jouer. Elle a été très mal accompagnée, tant au plan industriel qu'au niveau des primes qui ont varié, qui ont été arrêtées, relancées et tout ça. Donc, c'est très, très compliqué de faire évoluer un marché. Mais il y a un moment où on est rentré dans une période de rupture à la fois économique, climatique, énergétique et ainsi de suite. Il y a beaucoup de mots en hic dans ma phrase. Non, mais la réalité aussi, c'est que par rapport à ça, il faut avoir de l'ambition. C'est-à-dire que c'est autant de lianes qui passent pour jouer la révolution suivante. Et là, en Europe, on est encore malheureusement sur beaucoup de dossiers en train soit de se désaligner, soit de se dire « Ouais, non, mais attendez, le virage, on va le négocier à une vitesse plus réduite parce que vous comprenez, tatatitatata. » Alors que, en fait, on a l'occasion de jouer le coup d'après. Il y a un énorme coup à jouer aujourd'hui sur la robotique humanoïde qui est le coup d'après. Soit l'Europe se dit « Bah, mobilisons-nous. » plutôt que d'aller se battre sur les panneaux solaires sur lesquels c'est trop tard.
Oui, c'est trop tard. C'est un vrai sujet.
Et j'ai peur que sur les robots humanoïdes, ce soit déjà trop tard et moi aussi quand on voit les images qui sortent de Chine.
Non. Ne nous laissons pas abuser par les vidéos où on voit des robots chinois, etc. C'est comme des drones. Donc je dis pas que c'est OK, c'est sympa, mais c'est pas ça qui fait les choses. Les robots qui sont en place maintenant chez Renault sont complètement différents de ça. Voilà. Et donc là, on a effectivement un coup à jouer. Alors on maîtrisera pas l'ensemble de la chaîne de valeur parce qu'il faudra des chips, faudra des jeux, etc. Mais l'intelligence pour ces robots-là, on peut faire des choses sur le sujet. Voilà.
Allez, il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble. Il est 10h passé de 19 minutes. Vous êtes toujours sur BFM Business, les experts. Je voulais qu'on parle un petit peu de l'effondrement de valeur refuge. L'une, oui, l'or, très clairement. L'autre était quasiment considéré comme une valeur refuge à un moment pendant la crise. On voit que c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. L'once d'or qui a connu son pire mois depuis 2008. Et le Bitcoin, je voulais qu'on en parle ensemble, Céline Antonin, le Bitcoin qui a perdu 50% depuis son plus haut d'octobre. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de choses. Donc, il vous aura pas échappé qu'il y a une tension au Moyen-Orient, donc une incertitude politique qui ne profite pas, effectivement, enfin, en tout cas, qui ravive l'aversion au risque et donc qui ne profite pas au Bitcoin. Il y a également la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale américaine, qui, effectivement, donc avec une augmentation des taux d'intérêt, ça aussi, c'est pas favorable à la valeur Bitcoin. Alors, de manière générale, on a de toute façon des investisseurs institutionnels qui se sont détournés des crypto-actifs de façon plus large. Et puis, puis, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que même au niveau institutionnel, on voit quand même qu'il y a une réaction européenne assez forte. Par exemple, donc un des acteurs Binance qui n'a pas obtenu son agrément, justement,
la certification MiCA,
qui lui aurait permis d'opérer dans l'Union européenne. Et donc ça montre aussi que la Banque centrale européenne a quand même cette volonté de réglementer ce qui se passe sur le territoire. Et donc ça aussi, ça douche un peu l'appétit pour les cryptos, les stablecoins, donc notamment. Donc tout ça contribue effectivement à ne pas faire des cryptos une valeur.
Les stablecoins, ça bouge pas tellement. Puis
tout à fait. Mais c'est vrai que le fait que justement le fait qu'on ait une volonté d'institutionnalisation et que même sur les stablecoins versus les monnaies numériques de banque centrale, on voit quand même que les autorités sont quand même assez vigilantes. Ça joue pas en faveur, disons, des cryptoactifs.
Donc ça veut dire que cette baisse, elle est durable.
Comment ?
Ça veut dire que cette baisse est durable.
Alors bon, ça c'est toujours difficile à prévoir.
L'effet de mode est passé et que maintenant.
C'est toujours difficile à prévoir parce que comme c'est un actif numérique qui est ultra spéculatif, on ne sait pas ce qui peut se passer, qui peut en faire remonter. Mais en tout cas, je trouve qu'au contraire, ça joue dans l'idée que ça reste quelque chose de très spéculatif. Donc ce qui est quand même l'argument qu'on développait dans notre ouvrage. Donc voilà. Et donc que ce n'est pas du tout une valeur refuge comme on aurait pu l'entendre.
Moi, je pense qu'on peut vraiment comparer l'or au bitcoin, hein, grosso modo. Alors il y a une différence que l'or, on le touche, quoi. On peut avoir sa pièce de son Napoléon dans son placard, j'en sais rien. Mais sinon, c'est globalement la même chose. Hein. Encore une fois, il y a un volume limité, c'est contrôlé, etc. Donc, maintenant, c'est pas encore rentré dans l'esprit des gens. Je pense que on n'est plus en France où on se dit, bon, tiens, il y a des risques, donc je vais acheter de l'or et puis je vais le cacher dans ma cuisine, si je veux dire. Mais je pense qu'on peut comparer les deux. Simplement, on n'est pas encore rentré dans une logique de dire, pour moi, ça devrait être corrélé, voilà, pour dire entre guillemets, enfin corrélé, pas de manière légale, hein, mais dans l'esprit des gens, c'est la même chose. J'ai besoin d'une valeur refuge, je prends l'or ou je prends le bitcoin de manière générale. Mais
la différence, c'est quand même la valeur intrinsèque, c'est-à-dire que l'or, ça repose
sur un actif tangible,
concret, connaît pas le bitcoin, parce que la valeur du bitcoin, c'est zéro en fait, fondamentalement.
Oui, mais alors c'est vrai qu'il y a vous retombez sur le point de dire parce que d'un côté je l'ai physiquement, donc il y a de l'or matière physique palpable, de l'autre côté j'ai rien, c'est que des zéros et des uns, quoi.
Alors qu'il y a une matière précieuse malgré tout, donc il y a une valeur, disons, qui s'appuie sur autre chose que purement l'offre. Enfin, il y a l'offre et la demande, mais là, je suis d'accord avec vous que s'il n'y a plus de demande pour l'or, à ce moment-là, la valeur.
Voilà, je pense que c'est quand même. Je suis persuadé que dans le temps, pour essayer de répondre à la question de Raphaël Legendre, dans le temps, le bitcoin va rester et restera quand même une valeur refuge. Mais aujourd'hui, il est d'une volatilité qui est beaucoup plus forte que l'or.
Ludovic.
Mais je pense que. Pardon, je vais prendre le débat à l'envers. C'est-à-dire que je pense qu'on se pose un peu la mauvaise question. C'est pas tant pourquoi il y a cette baisse, mais c'est où va l'argent en ce moment? Je pense que c'est plutôt cette lecture.
Il y a eu un petit effet de vase communicant, effectivement.
À mon avis, c'est plus cette mécanique. C'est-à-dire que, on est dans des cycles sur l'or. Finalement, il y a une forme un peu de banalisation du bitcoin qui est en train de rentrer, de se mettre dans les mœurs. Mais là, l'appel d'air, ce qui est en train de purger les marchés, c'est l'IA, surtout. Enfin, on va pas se mentir. C'est-à-dire que là, même pour des gens qui jouaient la crypto et des choses comme ça, aujourd'hui, avec l'IPO de SpaceX, peut-être demain ChatGPT et ainsi de suite, il y a tout un revirement. L'argent est refléché, on va dire, sur le Nasdaq et consorts, et ça, clairement, ça purge. Donc, je pense que c'est ce mouvement sur lequel on est en train de voir. L'année dernière, l'or avait atteint des très très hauts niveaux dans un contexte mondial de dégradation, de tension, un peu de
et de rachat des banques centrales.
Et de rachat des banques centrales.
Vous avez totalement raison.
Il y a eu cette question de dédollarisation ou pas du monde. Enfin bon, les grandes mécaniques et tout ça. Là, l'appel d'air, que ce soit, on en parlait un instant sur la Corée et l'appel d'air des marchés, c'est que tout le monde veut monter en TGV de l'intelligence artificielle.
Et l'or, c'est facile à vendre pour avoir du dollar.
Ça, c'est le vecteur numéro un. C'est en train de purger, honnêtement, d'assécher beaucoup d'entreprises, à tel point que même maintenant, tout le monde essaie de communiquer, de faire un tant soit peu d'IA, même Valeo, même Schneider Electric. Enfin, tout le monde essaie de mettre un peu d'IA dans ses communiqués de presse, parce que c'est la seule façon d'avoir un cours de bourse qui progresse aujourd'hui, quoi. Donc, c'est très, très honnêtement.
Schneider Electric, c'est logique.
Oui, non, mais je provoque un peu, mais c'est-à-dire, c'est comment aujourd'hui il faut faire partie de l'histoire.
Oui, oui, mais c'est vrai.
Oui, oui. Puis bon, la politique de la réserve fédérale, en ce moment, à mon avis, joue vraiment un rôle important.
Alors expliquez-nous, parce qu'effectivement, il y a au sujet hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et jugulation de l'inflation.
Bah, c'est-à-dire
comment ça impacte tout ça?
Bah, ça rend le dollar attractif, donc du coup, vous préférez avoir du dollar, vous préférez investir en dollar qu'avoir du bitcoin ou avoir de l'or, en fait. Enfin, a priori, c'est de cette manière que ça joue. Alors effectivement, après, il y a toute la question de l'inflation, mais comme c'est une inflation qui est en grande partie importée...
Donc, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus l'or a tendance à baisser.
A priori, oui, on a une corrélation historiquement qu'on vérifie, quoi.
Oui.
Donc, voilà. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est qu'avec cette question d'inflation, mais qui est quand même essentiellement une inflation importée, c'est assez compliqué pour les banques centrales de se positionner, parce que en général, c'est vrai que ce contre quoi vous voulez lutter, c'est l'inflation interne. C'est l'inflation qui est liée au fait que vous avez trop de demandes par rapport à l'offre.
Oui. Voilà. Donc, et on a la BCE qui vient d'augmenter ses taux à un moment où l'inflation redescend.
Quoi que vous fassiez, ça va rien faire dans le détroit d'Ormuz. Hein. Enfin, je veux dire, a priori, les banques centrales n'ont pas encore ce pouvoir. Enfin, pas encore. Donc voilà. Donc, c'est en ça que c'est compliqué. Et c'est toujours la question de quand est-ce que cette inflation importée se transforme après en inflation interne. Bon, et pour l'instant, on n'en est pas, enfin, on n'en est pas encore là, quoi. Donc c'est
on va surveiller ce qui se passe à Sintra. Hein. Il y a nos amis de la Banque Centrale. Christine Lagarde en parlait hier, essayait de justifier la hausse de taux.
Ouais. Oui, ben, je vous dis...
Un peu à contre-temps. Bon.
Oui, oui, oui. C'est cette histoire en plus de enfin, nous économistes, c'est vrai qu'on travaille pas mal sur la question de la courbe de Phillips. Donc le fait
rappelez-nous,
que c'est l'arbitrage entre chômage et inflation, si vous voulez. Donc l'idée que quand vous avez trop d'inflation, effectivement, enfin quand vous avez beaucoup d'inflation, vous avez une moins de chômage. Enfin voilà, et vice versa, c'est-à-dire que quand vous avez, enfin, il y a une corrélation négative entre les deux. Et la question, c'est que vraiment, ça, c'est sur l'inflation importée, donc enfin l'inflation interne. Et j'insiste. C'est-à-dire que c'est pas une matière première qui coûte plus cher, un choc pétrolier.
Ça, c'est la un banque choc centrale de prix, ne va rien faire.
Voilà, absolument. Et ça, c'est
différence.
Vrai que c'est compliqué parce que de séparer les deux effets, ça reste quelque chose de très compliqué. Et je pense que vraiment les banquiers centraux sont face à cette incertitude. Comment on fait? Parce que en même temps, leur mandat, par exemple pour la Fed américaine, c'est non seulement la stabilité des prix, mais
l'emploi.
L'activité économique et l'emploi. Donc,
en termes de résilience, moi j'ai quand même été marqué aussi par le fait que le cours du pétrole n'avait pas augmenté autant qu'on le pensait.
Ah oui, $115 maximum.
Enfin, on parlait de 150.
Merci les réserves.
$200, etc. Il y a un papier dans les Échos qui est intéressant aujourd'hui.
Merci sur la Chine.
Comment la Chine a réussi
la Chine
à gérer
absolument,
le sujet.
Ça, bien
c'est assez intéressant.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que là aussi, les amitiés ou inimitiés entre pays ont fait que certains flux continuaient à fonctionner. Enfin, c'est en ça que c'est...
L'homme est résilient.
L'homme
est résilient, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Christian Poyot, Céline Antonin et Ludovic de Sauté. Tout de suite, c'est BFM Entreprise spécial leadership avec Eric Larchevêque de Ledger. Donc on va continuer à parler crypto, figurez-vous. Restez avec nous. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.